La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Max Lacasse.
En chair et en audio, Mel.
Yes! Max, on a eu du fun hier.
Hey, c'était-tu écœurant, ça?
Hey, ça n'a pas de bon sens. Et sur le live, ça riait. C'était le fun de vous lire. Écoute, on va refaire ça là, une fois par mois, au moins.
JF, tellement drôle. Camille aussi, ça a été là.
Cam, c'est révélation. Hey, non, c'était le fun. Je me suis vraiment fait dire par plusieurs personnes que la chimie était vraiment le fun à... Écoutez, là, vraiment.
Ah non, donc, c'est deux personnes exceptionnelles. C'est un privilège de les côtoyer à tous les soirs dans la station.
Vraiment.
C'est vraiment cool.
Oui, vraiment. Quelle belle vibe. Merci encore à Rich et Camille d'avoir joué le jeu hier soir. Et la semaine prochaine, lundi, c'est Jordan.
Oui, puis lui, on lui fera pas de cadeau. Là. Moi, j'ai déjà mes questions préparées. Ça fait 3 mois que je travaille là-dessus.
Ça va être trop long.
Ça va brasser. Et d'ailleurs, l'émission avec Jeff et Cam est désormais disponible sur le site de Radio X. Donc, si vous avez envie d'aller réécouter ça, gâtez-vous. Allez le faire abondamment.
Comme toujours, je veux savoir d'où est-ce que vous nous écoutez, 418-670-9098. Et si vous avez envie de nous parler, c'est le 1-877-440-2464, si je ne me trompe. C'est bien ça? 1-877-440-2464.
Oui, oui.
Numéro sans frais.
J'ai aucune idée, c'est ça?
Mais par là, ben oui.
Oui?
Ben
tu me l'apprends.
Erreur. Pour les personnes de l'extérieur, ça peut être vraiment intéressant.
Oui.
On a déjà des gens qui nous écrivent de Québec, Neuchâtel. Bonsoir. Donc, on est en live également sur TikTok si vous avez envie d'un soutien visuel. Et c'est notre invité qui est déjà dans la mire sur le live TikTok. Donc, pour connaître en primeur qui est avec nous ce soir, rendez-vous sur la page de la Sexploratrice sur le live TikTok. Mais comme toujours, on ne répond pas aux commentaires. Vous devez absolument passer par le 418-670-9098. Et on a déjà quelqu'un en ligne, en fait, ce soir pour nous parler de quelque chose de bien spécial. Bonsoir!
Ah, bonsoir, bonsoir!
On a la chance d'avoir avec nous notre cher Jason de la promo qui veut nous parler de quelque chose de spécial là, qui s'en vient. Qui est disponible déjà, en fait.
Ben oui, c'est déjà disponible depuis vendredi dernier. Donc, c'est la première édition cette année en collaboration avec nos amis de Ralbock, la bière Le Sapin Radio X. C'est une bière sans alcool et pourquoi on a décidé de lancer cette bière-là? Bref, à chaque année, depuis maintenant 3 ans, on a l'initiative à la fin du mois de novembre, pendant toute la période des fêtes, de ramasser de l'argent pour la Fondation du CHU de Québec, pour le centre Mère-Enfant-Soleil. On érige un grand, grand, grand sapin aux Galeries de la Capitale et puis on invite les auditeurs à faire des dons. Donc, façon supplémentaire pour faire des dons cette année, rendre l'utile à l'agréable, on achète une bière sans alcool. Pourquoi sans alcool? On a pensé à ça, moi, puis les gens de Ralbock, on s'est dit, mois de novembre, un peu avant les fêtes, c'est bien d'arrêter de boire un petit peu, puis de faire attention à sa consommation, juste un peu avant le temps des fêtes. Donc, une bière sans alcool, et pour chaque canette qui va être vendue, 50 cents seront directement versés à la Fondation du CHU de Québec. Qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut se procurer ces canettes-là? Massoif.com, les viandes Pépé Allé, Chaloux de Beauport et le Chaloux de Saint-Émile. Puis, tu sais, oui, on ramasse des fonds pour la Fondation du CHU de Québec, Centre Mère Enfant Soleil. Chaque année, on épouse vraiment une cause appropriée. Et cette année, les profits, les dons qu'on va faire vont être pour adapter le service de radio-oncologie du Centre intégré de cancérologie à la clientèle pédiatrique. Bref, les enfants qui ont le cancer, c'est pour eux cette année qu'on va ramasser des dons là, avec le Sapin Radio X et avec la nouvelle canette, le Sapin Radio X. Je pense que vous l'avez en studio. Hein?
Ben oui,
j'ai ça en avant de moi. Là, je suis allé crocheter la porte de ton bureau. Fait que demain, là, ça se peut que tu aies de la misère à rentrer. Mais j'en ai trouvé une. Fait que je te propose qu'on l'ouvre en onde directement. On fait-tu de l'ASMR, Romain? Là, t'as peu. Elle sonne bien ta canette, Dieu. Elle sonne vraiment bien, on va se le dire.
Mais avouez que le visuel est...
Hey, il est écœurant. Qui l'a fait, le visuel?
Ben, Fred a fait le visuel.
Fred Bergeron, qui est à la, oui, au marketing ici.
Qui est le graphiste de la station. Je me suis assis avec Fred, puis je voulais vraiment que notre canette reflète, de un, les enfants, un arbre qui fait un peu cartoon, puis je voulais aussi qu'on aille dans l'essence des canettes de Ralbock. Si vous avez vu les dernières canettes que Ralbock a sorties, on a refait le design du côté de Ralbock, et puis c'est vraiment cartoonesque. Donc, je voulais qu'on aille dans ce sens-là, et Fred a capté vraiment ce que je voulais. Et le résultat est fantastique. Les commentaires sont tous unanimes. C'est la plus belle canette de Ralbock, je pense.
Vraiment, je viens d'y goûter, là. Puis, ouais, vraiment, très, très bon goût. Et vous pouvez alterner aussi une bière avec alcool, une bière sans alcool. Donc, ça vous permet de passer une soirée et d'être moins magané le lendemain. Hein?
Et voilà.
Elle était 40, Jay. T'as-tu participé à la recette, toi? Ou?
Je n'ai pas participé à la recette. Moi, tout ce que j'ai demandé, c'est qu'on ait une recette originale. Donc, c'était la première fois qu'on brassait une bière blonde sans alcool du côté de Ralbock. On a fait plusieurs bières sans alcool. On a fait une sour, on a fait une IPA, on a fait une blanche. Et c'était la première fois qu'on testait la bière blonde sans alcool. Donc, allez vous la procurer. C'est important parce que chaque fois que vous achetez une canette, je le répète, 50 sous vont pour la Fondation du CHU de Québec, pour le Centre Mère-Enfant. Donc, massoif.com, les viandes PPA, les Chaloux Beauport, Chaloux Saint-Émile, puis si jamais votre dépanneur à côté de chez vous, il l'a pas, mais il y a des produits Ralbock, bien demandez-la, on va la rentrer dans les dépanneurs.
Oh wow, c'est fun ça.
Simple, ça. C'est pour une bonne cause, c'est quelque chose de noble, puis moi je vais te le dire ben comme du monde, je suis un grand amateur de boissons sans alcool parce que je bois pas à la base, puis la plupart des bières sans alcool, ça goûte la marde, mais celle-là, là, elle est solide.
Ben
elle est solide,
oui, vraiment.
Pas rien qu'un peu, non, ça se boit très 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 bien, c'est rafraîchissant, vraiment une belle réussite, Jay.
Puis on a tendance à penser, bon, les gens qui ont cessé de boire ou... Moi, je suis juste pas tolérante à l'alcool. Fait que j'aime ça boire de la bière sans alcool. Mais également, dans ma famille, j'ai des gens qui sont diabétiques. Ils peuvent pas prendre d'alcool parce que ça fait monter le taux d'insuline et tout ça. Donc, écoute, c'est merveilleux, là, vraiment. Je vais aller en chercher pour le temps des fêtes, assurément. Quelle belle cause en plus. Et ça, c'est disponible, on le rappelle, chez massoif.com, dans les Chaloux de Beauport, Saint-Émile et chez Pépé Allé.
Yes,
sir. Parfait, ça. Merci, Jay. Jason, allez, bonne fin de soirée. Merci beaucoup.
À vous également.
Bon, yes. Merci, Jay.
Bye. Salut.
Bye.
Le doc.
Le thérapeute compatissant, bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Eh bien, voilà. On l'a encore une fois avec nous.
Bonsoir.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Je voulais pas être ici.
Non, mais tu vas te rendre millionnaire, hein, venir faire de la radio avec nous autres comme ça. T'es payé cher.
Je suis attaché, je suis traîné.
Ça fait beaucoup de zéros, mettons, sur mon chèque. Pas mal juste ça comme chiffre, même.
Ça, je pensais.
Docteur Simon, ce soir, on a des gens qui nous écoutent de, mon Dieu, du Cap-Breton.
Oh.
On a des gens... Pardon, mon Dieu, la bière, moi. Et là, hein, ça enlève pas les effets de roquette.
Moi, j'ai eu le visuel, c'était terrible.
Avec les lunettes et tout. Ce soir, je ressemble à Thérèse de la petite vie. Donc, on a Frank de North Bay en Ontario. On a également des gens de Berthierville. On a un camionneur toujours très excité dans son camion. Merci, Eric. Très drôle. Quelqu'un qui nous écrit de Lillet, de Saint-Patrice, de Québec. Merci, merci, merci d'être à l'écoute. Sans vous, ben, on serait pas là. Hein?
Exact.
Doc Simard, ce soir, on a plein de sujets qu'on voulait aborder. Et oui, on a... bon, hier, j'ai annoncé que maîtresse Bella serait en onde avec nous. Et malheureusement, maîtresse Bella est très malade ce soir. Donc, elle ne pouvait être des nôtres, ni à distance, ni en personne. Donc, Doc...
Je devrais me dépasser ce soir.
T'as accepté de rester pour toute la soirée avec nous. Et c'est merveilleux parce qu'on a plein de questions pour toi. On va pitcher partout ce soir.
Penses-tu qu'on va réussir à booker toute l'heure ensemble?
Je pense que oui.
Ah. OK, je te suis.
Attends, je vais y penser. Je pense que oui. Donc, on va y aller. Sérieusement, on va pitcher un peu partout avec tout plein de petits sujets par-ci et là, comme on le fait souvent. Et les gens, vous êtes vraiment invités là, à interagir avec nous, poser des questions si vous en avez envie, via le 418-670-9098 ou même par téléphone au 1-844-1-877-440-2464.
Le gagnant, complément 1884.
Donc... Doc, j'avais une question pour toi. Une question qui m'est venue en discutant avec quelqu'un récemment. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont célibataires, souhaitent rencontrer quelqu'un là, d'indépendant. Hein? On se vante qu'on veut... On est indépendant, puis on veut rencontrer quelqu'un d'indépendant. Et là, la relation se forme. Puis finalement, ils ne cherchaient pas vraiment quelqu'un d'indépendant parce que là, l'indépendance de l'autre devient gossante. Et là, ouais. la personne trouve que l'autre est trop indépendant, voudrait plus. Donc, en discutant le hors d'onde rapidement, tu m'as expliqué qu'il y avait une raison pour ça.
Bien, on pourrait dire que ce n'est pas les mêmes critères qui génèrent de l'attirance et les critères de satisfaction conjugale.
OK.
Fait que moi, ce serait là-dessus que j'aimerais aligner les gens.
Oui.
Parce que quand on obtient ce qu'on désire, mais qu'on ne savait pas c'était quoi la suite, oh là, on est dans le trouble un peu.
OK.
Mon ami David, d'ailleurs, David Paris, son école de séduction, là, il dit que le vrai défi de la séduction commence une fois que tu es en couple. C'est parce que c'est un autre genre de mindset à comprendre. Puis là, c'est dur pour une personne de croire que, ah ouais, mon feeling qui me disait intérieurement, oui, cette personne-là m'attire, c'est pas la bonne avec laquelle elle est en relation. Ah, ça, c'est choquant.
Hey, mais là, on va. Ouais, parlant de ça, quand on rencontre quelqu'un, là, on est en mode représentation, on va se le dire. Là.
Oui.
Puis on est en mode très anxieux, stressé souvent. Ça fait partie, on l'a déjà dit, des situations les plus anxiogènes dans la vie d'un humain.
Surtout si on perçoit beaucoup de valeur dans la personne. Là, tout d'un coup, on est nerveux. Là.
Oui, puis c'est difficile. On devient vraiment stressé et tout. Donc, une première rencontre, en fait. Tu sais, on dit parfois que il suffit de quelques minutes pour savoir si l'autre personne nous plaît ou pas. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, mais ça dépend. Ça
la
va
première
être quoi,
impression?
C'est parce que l'attirance, c'est beaucoup basé sur les critères, on pourrait dire, de différence et de supériorité. Fait qu'il y a des études qui ont été faites là, sur des milliers de dyades dans des cultures ouvertes là, où on avait le droit d'être polygame, on a le droit d'être monogame, puis là, dans le fond, il n'y a pas d'influence culturelle. Puis là, quand on regarde, c'est quoi qui attire le plus les gens, là? C'est le fun, ça. C'est des données qui ont été publiées l'année passée en plus. Mmh. Mais on découvre que ce qui attire le plus les gens, c'est les hauts standards de beauté. Donc, ça veut dire que tout le monde veut se taper les plus beaux.
Ah oui, fait qu'on est superficiel.
Dans les critères d'attirance initiales, oui, on veut tous se taper les plus beaux. Ça serait relié avec les hypothèses biologiques de sélection des meilleurs partenaires pour avoir
dans le but
bons
de procréer.
Gènes. C'est ça. Mais une fois rendu en relation, il y a un autre genre de jeu qui commence à se jouer. Puis là, ça va être la similitude qui va prédisposer à la satisfaction conjugale. Ça veut dire que si vous voulez une personne indépendante, vous êtes aussi bien de l'être vous-même.
Oui.
Parce que si vous n'êtes pas capable d'être indépendant, mais que vous voulez ça de l'autre parce que vous n'avez pas fini de régler quelque chose en lien avec votre dynamique intérieure, la pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'on vous en donne une personne indépendante.
Ça va entrer en collision.
Vous ne saurez pas quoi faire avec une fois en relation.
Hey, parce que j'en connais là, des femmes qui souhaitaient un homme indépendant, puis une fois en relation, là, il ne répond jamais, il ne me donne pas d'affection, il n'est pas attentionné.
Exact.
Ouais, mais là, tu voulais quelqu'un d'indépendant, en réalité. Mais il y a quand même une limite. Là,
c'est un bon exemple. Piégé par son propre désir.
Mm-hmm.
Fait que la personne était aveuglée. Peut-être qu'il faudrait justement augmenter la connaissance de soi à ce moment-là.
Mais les personnes qui veulent l'opposé de ce qu'elles sont, est-ce que c'est pour eux un idéal à atteindre? C'est quelque chose qu'elles aimeraient accomplir dans leur vie? Fait qu'elles vont voir des personnes qui ne sont pas comme eux pour pouvoir devenir comme ça?
D'une certaine manière, oui, parce que l'idéalisation, c'est une illusion. Fait que quand on recherche des sensations fortes, on est aussi bien d'aller du côté des illusions. Mais ça ne prédispose pas la durée des relations. Ça prédispose un gros flash de lumière très intense. Tu sais, comme l'expression « allumer une chandelle par les deux bouts
».
Bon, ben, imaginons qu'en plus, on l'allume par le milieu puis quatre autres sections dedans. Fait que ça fait un gros flash de lumière. Mais tu te brûles tous les doigts en plus. Typique d'une personne qui obtient ce qu'elle désire, mais pas ce qu'elle avait besoin.
Ah, c'est super intéressant ça. Et on sait que l'humain a tendance à désirer ce qu'il n'a pas plutôt que d'apprécier ce qu'il a.
Oui.
Ça, c'est directement lié à la dopamine, j'imagine.
D'une certaine manière. On pourrait faire... C'est quoi le lien que tu fais avec la dopamine?
Bien, en fait, je me dis que... tu sais, on a tendance à désirer ce qu'on n'a pas parce que une fois qu'on a obtenu quelque chose, on est excité au début de l'avoir, on est content.
Oui.
C'est le fun, puis on l'apprécie. Mais vient un moment où... Je sais pas si c'est lié à la dopamine, c'est ce que je pense, mais t'es l'expert pour me le dire, j'ai raison ou pas. Mais j'ai l'impression qu'après un certain temps, c'est comme si dans notre cerveau, ben la dopamine, c'est ça, le lien, là, le comment dire, le l'excitation
à...
ou la
ouais.
le désir est passé, donc on aurait besoin de d'autres choses pour réaugmenter.
Pour faire du pouce sur ce que tu dis, est-ce que en fait, l'accomplissement ne serait pas plutôt dans la quête et non dans l'objectif une fois atteint? C'est-à-dire que les beaux moments se passent lorsqu'on tente d'atteindre l'objectif. Et une fois qu'on arrive à l'objectif, on essaie toujours d'en avoir un autre. Fait que les bons moments sont dans la quête au final.
Ben moi, c'est avec ça que j'associe les concepts de connaissance de soi. Il faut savoir que quand on va rencontrer une personne, on ne va pas seulement établir la relation basée sur l'attirance ou le désir initial. Est-ce que vous êtes prêt à ce que ça se transforme? Donc, ça serait bien d'être capable d'entrer en relation avec une personne que vous désirez.
Oui.
Que vous admirez ses choix et ses réalisations. Une personne qui a des projets qui vont dans, à peu près dans la même direction que vous. Parce que bientôt, la grosse passion, ça va se transformer tout ça, là. Mais quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on se garoche là-dedans en se disant « Bon, ben, oh, mais je le sens, j'ai le feeling! » Moi, tu sais, j'appelle ça la tyrannie du feeling, moi. C'est comme un tyran.
Bien, je disais récemment, les trois types d'amour, il y a la passion, il y a l'amour véritable et il y a le désir, mm-hmm. justement. Donc, la passion va être vraiment explosive, addictive, ça va être enivrant, mais si tu n'évolues pas, si ça ne va pas en profondeur, ça va s'éteindre. Après ça, le désir, bien là, c'est vraiment, c'est ça, c'est qu'un désir, ça n'ira pas plus loin que l'envie et tout ça, alors que l'amour réel, bien, l'amour dans le respect, tout ça, c'est moins intense que la passion. Et vient souvent après la passion, mm-hmm. ou se développe tranquillement sans passion, mais c'est ce qui est plus profond et plus intense, finalement.
Oui, moi, j'aime bien utiliser la terminologie en vieux grec. Là. Il y a 5 termes dans le langage du vieux grec là, qui définit des sortes d'amour qui me semblent très bien représenter les phénomènes. Fait que je vais vous les dire rapidement.
Oui, donc. Prenez des notes.
Il y a l'éros, ça, c'est l'amour d'excitation érotique, là, l'amour sexuel. Ensuite, il y a le storge, ça, c'est l'amour des traditions et de la famille. Ensuite, il y a la philia. Ça, c'est l'amour des amitiés, dans le fond, d'esprit d'équipe. Il y a la philotia, qui est l'amour de soi et du développement personnel. Et il y a l'agapé, qui est l'amour d'acceptation inconditionnelle, universelle. Mais c'est comme un peu une progression dans laquelle ces formes d'amour-là, eros, storge...
Ce sont des étapes.
Philia, philotia... agapé, sont de plus en plus rares à trouver parce qu'ils demandent d'avoir beaucoup travaillé sur soi. Fait que la majorité des gens vont être pris au niveau qu'on appelle le storge, l'amour des traditions et de la famille.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui vont éteindre leur progression de compréhension de l'amour à ce niveau-là. La famille, c'est ce qu'il y a de plus beau. Là, on entend ce genre de phrase-là. Moi, je pense que c'est une très belle chose, la famille.
Mais oui.
Mais ça peut être aussi un véritable enfer si ça n'a pas été bien travaillé et que les limites sont floues.
Oui. Puis, on en a déjà parlé, mais tout le monde, en grandissant, grandit avec des blessures.
Ah oui.
Tout le monde.
Ah oui, moi aussi.
Inévitable.
Ouais.
Ouais.
J'en ai, moi.
Mais on peut finir par en guérir.
Oui, mais c'est ce que ça veut dire, guérir, que des fois, les gens n'arrivent pas à saisir. Parce qu'on pourrait dire que c'est plus aménager son espace de blessures et de souffrances, savoir s'occuper de ses blessures qui permet de se libérer. C'est comme si je ne suis pas seulement fort. Je sais être fort, mais je sais être vulnérable. Donc, ça va me faire mal quand je vais être vulnérable. Mais vu que j'y ai accès maintenant, je suis capable de le soigner peut-être plus tôt. Fait que c'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils commencent à travailler leurs blessures, souvent.
Est-ce que pour travailler ces blessures, bon, comme tu viens de le dire, ça nous demande d'être vulnérable.
Ouais.
Est-ce qu'on doit l'être avec n'importe qui?
Non.
N'importe quand?
Mais non. Parce qu'on peut se faire défoncer la gueule si on est vulnérable avec quelqu'un qui...
Comment on choisit les bons moments et les bonnes personnes?
Il faut se sentir en sécurité.
Mm.
Puis il faut surtout sélectionner le moment. Parce qu'on va faire encore une fois la différence entre le moment de l'attirance puis le moment de la relation. C'est une chose qui est assez bien connue, hein, que dans la relation, mesdames peuvent en finir par dire à leur chum, « Là, tu me parles jamais. Ouvre-toi un peu. Pourquoi t'es pas vulnérable avec moi? » Puis là, le gars, « Oh, mais là, j'aime pas ça, moi, je sais pas comment faire. » Puis alors qu'il se fait demander de l'être. Donc là, à ce moment-là, c'est souhaité. Dans une relation, ça peut être souhaité un peu de vulnérabilité pour connecter en profondeur. Mais
là, peut-être que plus que c'est demandé, moins qu'il y a le goût de le faire aussi.
C'est vrai aussi. Mais dans une première date, un homme qui se montrerait vulnérable dans une première date...
Hey, c'est pas très bon, ça.
C'est pas tellement turn-on.
Non.
Au contraire, c'est comme un facteur qui dit...
De faiblesse?
Non, ouais.
Tout le monde, je pense qu'on ne devrait pas se montrer vulnérable ou parler des difficultés de son passé ou lors d'un premier rendez-vous. J'ai l'impression que ça pourrait faire peur.
Mais en même temps, ça va dépendre ici. Le vrai critère, en fait, à sélectionner, ça va être la réciprocité. Si vous êtes capables tous les deux dans une première date de vous synchroniser, puis il y en a un qui est un petit peu maladroit, puis l'autre aussi est un petit peu maladroit, donc là, il y a une réciprocité au niveau de la connexion, de la vulnérabilité. Ça, c'est un critère de connexion profonde.
OK.
Mais s'il y en a juste un des deux qui est vulnérable, puis l'autre est en parfaite maîtrise, c'est difficile de devenir amoureux d'un serviteur.
Puis est-ce que tu crois que c'est vrai qu'on doit... En fait, qu'on répète souvent des patterns jusqu'à ce qu'on en soit guéri?
Plus ou moins.
Plus ou moins,
moi,
OK.
Je pense qu'on va répéter le pattern même une fois guéri.
Ah oui?
Oui, parce que c'est relié avec des circuits dans notre cerveau qui vont se réactiver avec des émotions puis des sentiments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monde affectif.
OK.
C'est que ça se déclenche par appréhension. Fait que si, mettons, il y a quelqu'un ici là, qui se met à crier, qui me crierait dessus, là, moi, je vivrais des émotions. Donc, je pourrais, à cause de ça, redéclencher un pattern que j'ai à l'intérieur de moi face à l'hostilité ou des gens qui me crient. Mais maintenant, je suis habile à m'en occuper. Ça veut peut-être dire que je n'ai pas le contrôle sur le déclenchement de mon pattern ou de ma réaction affective, mais j'ai un contrôle partiel une fois que je m'en rends compte. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre quand on a un pattern. Ouais. Que même si vous vous en occupez parfaitement de votre pattern, vous n'avez pas le contrôle sur s'il se déclenche ou pas. Vous avez un contrôle sur qu'est-ce que vous en faites si vous constatez qu'il se déclenche. Parce que des fois, on écoute un film triste, oh, tout d'un coup, ça me fait penser à la personne. On reconnecte avec l'émotion.
Ouais.
Pour penser ses blessures, il faut se montrer vulnérable. Mais la vulnérabilité, ça veut dire aussi être un livre ouvert. Elle est où la ligne entre se montrer vulnérable, être toujours dans la vulnérabilité et se victimiser pour obtenir la pitié des autres à notre avantage?
Ben ça serait de la manipulation.
Oui.
Oui, mais la ligne est quand même mince entre les deux.
Très facile à faire.
Mais on dirait que moi, je le sens.
Oui.
Comment
quand quelqu'un se victimise et quelqu'un qui est clairement vulnérable en situation de vulnérabilité.
C'est quoi la différence?
C'est dans la façon... On dirait que quelqu'un qui se victimise souvent va mettre quelqu'un en faute. Mais en tout cas, pour ma part, là, de ce que j'ai remarqué, parce que je pense à deux personnes, entre autres, mais quelqu'un...
On les salue.
Qui...
Bonjour, bonsoir.
Quelqu'un qui vit une réelle situation triste va parler que de son malheur à elle sans nécessairement... En tout cas, c'est le feeling que j'ai, là, mais peut-être que je suis en charge.
Sans ouverture vers l'autre.
Oui, mais sans mettre la faute sur quelqu'un, elle est juste pas bien triste de la situation. Puis,
Mais je pense que la victime, elle a peur du pouvoir sur sa vie. Alors que la personne en victimisation, c'est une stratégie pour avoir du pouvoir sur les autres. Fait que c'est très différent d'une personne qui est réellement victime de ses vices. Elle perd le pouvoir sur sa vie, là. Elle n'est pas en train de vouloir manipuler les autres. Elle perd vraiment le pouvoir. Mais l'auto-victimisation, c'est je me place moi-même dans le siège de la victime afin de tirer les leviers des transactions de jeu de pouvoir. Ça, c'est la théorie de Cartman, le triangle de Cartman, qui c'est un triangle renversé là, qui repose sur la victime.
C'est sauveur.
La victimisation, pardon. Ouais, c'est ça.
Sauveur, persécuteur et victime.
Voilà. C'est quand même assez facile à détecter si vous faites la nuance de est-ce que la personne que j'ai devant moi est en train d'essayer d'avoir du pouvoir à travers ses plaintes ou en fait, c'est un appel de détresse et elle n'a pas de pouvoir.
Mais quelqu'un qui collectionne des relations toxiques, moi, au fil du temps, j'ai compris qu'à un moment donné... Si j'enflais des relations toxiques, par exemple, c'est que je donnais le pouvoir à ces personnes-là d'être toxiques avec moi, en quelque sorte. Parce que probablement que j'avais des blessures, je les laissais faire et tout ça.
Et des avantages secondaires?
Peut-être, probablement, oui.
C'est une des raisons qui fait qu'on tolère des choses qui ne nous conviennent pas, les avantages secondaires.
Effectivement, oui.
La stabilité, l'argent,
la famille,
l'opportunité, la famille, l'habitude.
Effectivement.
Tout ça, c'est des avantages secondaires.
Mais je pense qu'une fois que tu as travaillé sur toi et que tu t'es guéri... Tu détectes rapidement les comportements toxiques chez l'autre et tu mets tes limites, tu te respectes, tu dis non à cette relation-là. Et là, quand il y a quelqu'un de bien qui entre dans ta vie, ça en est presque épeurant.
Ça nous sort de notre zone de confort.
Ah oui?
À quel point c'est bon sortir de notre zone de confort quand on a des blessures à penser?
C'est très bon. Mais moi, j'aurais goûté, il faut différencier ici la zone d'exploration puis la zone de danger.
C'est-à-dire?
Ben, c'est comme si la zone de confort, c'est un lieu de ressourcement. Mais un moment donné, sort du camp de ressourcement, là, du refuge. Là. Un refuge, pas fait pour vivre là l'année. Là. C'est fait pour aller pour les vacances et pour s'abrier contre la tempête ou en cas de guerre. Fait que, quand c'est fini, cette situation temporaire-là, sort du refuge. Puis là, tu vas dans, t'explores la vie. C'est la zone d'exploration. Mais c'est une zone où on apprend plein de choses. Mais il y a des gens qui vont tellement loin qu'ils vont dans la zone de danger. Puis là, en essayant des nouvelles affaires, ils se détruisent.
Ils se détruisent ou se découvrent.
Oui, ben,
parce que tu peux sortir. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à rester dans les relations toxiques, même si c'est pas bon pour eux, parce que c'est une zone connue pour eux.
Ah oui.
Puis de sortir de ça, c'est une zone d'inconfort, c'est une zone inconnue.
Oui.
Donc, ils risquent d'être mieux, mais c'est épeurant parce qu'ils connaissent pas la sensation d'être bien, dans le fond, finalement, quelque part. C'est quasiment ça. Ça en est presque épeurant.
Et juste
donc,
le fait...
préfèrent rester dans le...
C'est ça. Juste le fait de sortir de ce qu'on connaît, ça peut déclencher nos réflexes de peur. Puis dire, « Ah, c'est quoi ça? »
Ben oui. Puis là, tu sais, c'est quand c'est beau, puis c'est doux, puis c'est facile, c'est comme trop beau. Fait que là, t'es sur tes
ça
gardes.
Oui,
c'est ça exactement. Mais des relations saines, ça existe.
Ben, c'est pour ça qu'il faut se donner le droit d'avoir accès à nos émotions désagréables comme ça, comme la peur. Et puis, si on y laisse jouer son vrai rôle, elle va rapidement se réguler. Mais il y a beaucoup de gens qui refusent de se connecter avec cette émotion-là. Ça fait qu'ils sont tous perturbés, là. Ils vivent des choses qu'ils ne voudraient pas vivre. Fait que là, en plus d'avoir un défi à relever, en plus, ils résistent contre cette émotion. Fait que là, il y a deux problèmes plutôt qu'un à régler. Hey, on peut bien être mêlé.
Ouais.
Fait qu'il faut apprendre à se diriger vers soi. Puis que ça soit le fun ou pas le fun, on s'en occupe. Ça, ça libère de beaucoup de choses.
Puis la véritable personnalité se présente lorsqu'on rencontre quelqu'un. C'est au bout de 2 mois environ?
Moi, j'aurais goûté, c'est quand on en vit le premier conflit.
Qui arrive en moyenne au bout de 2 à 3 mois, c'est ça?
Ben,
à peu près? La phase de désenchantement?
Ouais, ah, ouais. Pour toi, on peut vraiment voir la vraie nature de quelqu'un lorsqu'on est en conflit avec lui?
Ben,
par la façon dont il joue?
Oui, oui, mais pas besoin d'avoir un conflit mortel. Mais c'est qu'il faut au moins voir comment l'autre gère les frustrations. Donc, quand il est en train d'avoir quelque chose de prévu, l'autre personne, puis là, vous chamboulez le plan prévu, là, ou que vous ne respectez pas le plan qu'elle a. Comment la personne réagit? Est-ce qu'elle réagit de manière similaire à vous? Est-ce qu'elle est complètement hostile, désorganisée? Est-ce que finalement, ça révèle des secrets de la personne qui affrontait la santé, puis elle n'était pas pantoute ce qu'elle disait la personne? Donc, ça prend une mini-frustration pour sortir de la phase d'enchantement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut désenchanter, un peu comme si on crevait un ballon, puis là, on voit le pire de la personne.
Non.
Mais c'est vrai qu'une vision réaliste, ça implique savoir le beau et un peu des vulnérabilités, des mauvais côtés de l'autre.
Moi, pour un premier rendez-vous, je suggère souvent d'aller dans des endroits où on peut jouer à des jeux de société ou encore des trucs pour s'évader, là. Sans les nommer, là, tu sais, les...
Il fait noir, là-dedans.
Ben, il fait noir, mais ça peut être le fun aussi de voir si l'autre personne est une bonne ou une mauvaise perdante.
Ouais, mais là, ça va se mettre à faire l'amour, là-dedans.
Mais non, mais ben non,
oui,
mais
ils vont rester là toute la nuit. Hey, mais dans une relation où il y aurait, par exemple, un indépendant et une dépendante, ou un dépendant, dépendante, là, peu importe, est-ce qu'il existe une zone démilitarisée, un peu comme entre les deux Corées, où on peut se rejoindre, puis il y a un moment où on va bien pouvoir vivre ensemble? Est-ce qu'on peut... Oui. On peut trouver un point de milieu?
Ben, c'est une bonne question, mais pour ça, il faudrait débarquer le concept de dépendance de ce que tu es en train de dire. Il y a un terme qui s'appelle l'autonomie.
L'autonomie.
Qui est beaucoup mieux que le terme d'indépendance, puis qui en même temps permet de se définir de manière plus épanouissante. C'est que l'autonomie, c'est je suis la personne responsable de mon bonheur. Ça ne veut pas dire que je me fous des autres. Ça ne veut pas dire non plus que il me faut absolument l'autre pour être heureux. Donc l'autonomie, c'est une piste, on pourrait dire, salvatrice, qui se situe à mi-chemin. Développer votre autonomie. Avant de faire des projets communs, ça prend la capacité d'avoir des projets personnels.
Et puis à partir du moment où tu as développé ton autonomie, là, l'autre, c'est un plus dans ta vie. Là. Puis tu n'as plus peur. Ouais. Tu n'as plus de peur de l'abandon. T'as plus... En tout cas...
Ah, ça, c'est merveilleux quand on réussit à le vivre. Hein.
Ben oui, parce que tu te dis, l'autre est un plus.
Ouais.
L'autre n'a pas besoin de moi.
Ouais.
J'ai pas besoin de cette personne-là. Mais on est là pour vivre des beaux moments ensemble, construire quelque chose ensemble. C'est tellement à l'intérieur, tu sais, de savoir que t'es heureux sans, mais c'est encore mieux avec, tu sais.
Oui.
Mais ça, là, je pense que ça peut juste créer des... Imagine 2 personnes qui se rencontrent comme ça, là, dans ces états-là, là.
C'est précieux.
Tabarouette.
Ouais. Je pense que ces couples-là, il faut le voir comme... Puis corrige-moi si je me trompe, Paul, puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. Il faut voir le couple comme une chose qui n'est jamais aboutie, dans le sens où il faut continuer à flirter avec sa blonde ou son chum, il faut continuer à entretenir le couple, et pas voir comme une chose qui est accomplie.
On dirait un commentaire de gars qui est en couple depuis 5 ans.
Depuis 9.
9! Oh mon Dieu, j'étais pas là.
Ils sont tellement beaux, là, ça met pas de bon sens.
Mais
c'est
oui.
vraiment un couple, pour vrai, il faudrait quasiment que vous veniez.
Mais
c'est vraiment une belle histoire.
C'est un peu idéalisé, par contre, le rapprochement, ce que tu dis.
Oui, parce que tout à fait.
Parfois, là, il y a des phases de la vie du couple qu'il faut savoir s'éloigner pour mieux se désirer à nouveau.
Oui, ça nous est arrivé. On s'est éloigné, on s'est mieux retrouvé, mais je pense
c'est
que...
C'est vrai, ça, hein?
Mais je pense que dans l'idéal, c'est important de continuer à entretenir la flamme et pas de prendre pour acquis qu'elle va être là comme la flamme olympique et qu'elle va brûler éternellement.
C'est sûr que prendre pour acquis, c'est pas très gagnant.
Parce on dit tenir pour acquis en passant les boys.
Ah, okay.
On tient quelque chose pour acquis.
Ouais. Merci, le petit Larousse.
C'est un anglicisme, sinon. Hold on.
Non, c'est juste que c'est ça, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, puis depuis, j'arrête pas de me reprendre moi-même. Puis je reprends tout le monde qui me dit je prends pour acquis. Non, on tient pour acquis.
D'accord.
Mais j'ai perdu mon idée. Donc, de toute façon, c'est l'heure de la pause.
Hey,
déjà,
ça tombe bien!
On l'a même dépassé. Donc, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98 heures Radio X.
La Sexploratrice.
Exploratrice.
avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec Mel et Max.
Salut.
Vous écoutez la Sexploratrice sur les ondes de choc 98.1 Radio X. On poursuit la discussion avec notre cher Dr. Paul Simard, psychologue.
Bonsoir.
Bon, déjà une demi-heure de passé, Dr. Simard, avec notre premier sujet.
On a réussi finalement.
On en avait 6, on va oublier ça.
Oui, on va ça. On se trouve toujours des sujets, nous.
Ben oui.
OK.
C'est le fun, ça.
En as-tu un deuxième?
J'en ai plusieurs autres, mais on va y aller avec la gestion de l'abondance et de la famine amoureuse et sexuelle. Ouais. La grande différence entre les hommes et les femmes.
Oui.
J'adore ça.
Ouais.
La famine hyper intéressant. Et sexuelle.
Ça, oui, parce que les façons de rencontrer d'aujourd'hui sont extrêmement différentes de dans le temps. Là.
Ça, c'est vrai.
Oh, je m'ennuie tellement des slots de fin de soirée dans les bars.
Ah ouais, t'aimais ça de coller sur des inconnus en sueur après avoir bu pendant 3 heures.
Face en plus. Ouais.
Tellement.
C'était une de tes passions, ça.
Tellement.
C'était un des beaux moments, je m'en souviens.
Mais c'est parce que quand ça connectait, là.
C'était magique.
Mais oui. Oui, racontez-nous donc vos histoires de slow, là, au 418-670-9098.
Je l'ai jamais vécu, moi.
Mais non, c'est ça. C'est
Paul,
ça qui est triste.
On t'a mis sur la lumière pour se mettre de la musique.
Les jeunes.
Oh, de la musique de saxophone.
Non, mais un bonsoir, on va faire participer les gens. Là, on va demander leur tune de slow préférée. C'était quoi vos tunes de slow préférées, oui, là?
On pourrait organiser ça, un mais slow, oui, avec Nick. Comme dans le temps.
Mais oui!
Non, mais aujourd'hui, avec le consentement du toucher, on peut plus faire ça.
Non, on peut plus. Mouvement MeToo depuis qu'il est dans le décor. On peut plus danser de slow. On peut plus de...
Maudite vie.
Parce que là, il n'y a plus le consentement éclairé.
Effectivement.
Il n'y a pas d'éclairage.
Parce qu'il fait noir.
Non, il n'y a pas seulement...
Il y a de l'alcool.
Absolument, voilà.
Il y a de la musique qui assourdit.
Imagine quand tu dansais deux slows consécutifs avec la même personne.
Ah, ça voulait dire que...
sûr
que ça voulait dire que tu ne voulais pas te lâcher. Je m'en souviens.
Après deux, il allait vers une autre. Comme
moi, c'était aux Zinc à Jonquière à l'époque. Oh. Et à l'Audace. Et
moi, c'est au Palace, au Palladium. Oh mon Dieu, les bars ici, il y en avait, là, le Vogue, le Maurice.
Hey, j'ai pas vécu ça, moi.
Hey, je le sais, c'est tellement triste que
jeunesse
t'as pas vécu
perdue.
Ça.
Je le sais.
Ah, c'est une jeunesse perdue. Ah oui, absolument. Ma vie ne vaut plus rien.
À place, jeunes, t'es obligé d'être heureux.
Vous êtes dans le même établissement en même temps, puis plutôt que d'aller vous parler, vous allez vous ajouter sur Instagram et vous allez discuter virtuellement.
Hey, juge pas ma génération.
Avez-vous remarqué, cher auditeur, comment Mélanie idéalise le fait qu'elle a vécu de l'abondance à cette époque? Mais il y a des personnes qui ont vécu de la famine à cette époque-là, qui auraient voulu avoir des slows, puis qui n'en ont jamais eu. Puis que là, il y a prochaine femme.
Mais j'en avais pas tout le temps, là.
Puis là, oups, se faire rejeter. Tu sais, quand on demandait, on demande aux hommes de parfois d'être vulnérables, mais imagine un homme qui se fait rejeter 50 fois.
Très sérieusement, là, ça prenait du guts en tabarouette dans le temps. Là.
Oui, les hommes avaient du courage. Et
mais
aussi
les femmes aussi.
Effet.
Moi, j'osais.
Quoi? Puis,
mais j'acceptais bien le non, par exemple. Ben oui.
N'importe non, mais... Quoi. Toi, t'allais demander au monde.
Mais
là.
Certainement.
Mais pas.
Mais voyons donc. Ben oui, au pire. Puis ça m'arrivait de me faire dire non, puis c'est pas grave.
C'est vrai.
Mais j'avais sincèrement un petit peu de peine pour les hommes qui se faisaient... Quand je voyais un homme, j'avais juste envie d'aller le voir. Hey, au pire, on fait danser.
La danse de pitié.
j'ai eu plusieurs. Pitié.
Mais moi, je pense que c'est bon pour l'homme de se faire virer dans ses shorts. Je trouve que ça développe la confiance.
Ben, oui, c'est ce que les hommes ne vivent plus aujourd'hui. Ben, en tout cas, pas de la même façon.
Ils se font virer de bord sur les applications de rencontre.
C'est ça.
Moins pire, on dirait.
C'est un peu moins pire, mais ouais. En même temps, c'est parce que ça peut miner le moral à long terme. Puis c'est pour ça que les études ils démontrent que si tu veux avoir du succès sur les applications de rencontre, de manière générale, il faut que tu fasses partie des hauts standards de beauté si tu es un homme. Parce que, tu sais, mesdames, avant, vous vous faisiez solliciter par les gars à tabagie ou à l'épicerie ou dans le village, dans le fond. Puis à cette heure, mesdames, vous recevez de l'attention dans vos boîtes Messenger, Instagram.
Les gars de la ville.
Virtuellement.
C'est quasiment infini la quantité d'attention que, de manière générale, je parle pas de vous, là, ici, je parle en général. Donc,
mais c'est fou pour une femme, hein? Les femmes pêchent à la dynamite. Vraiment, là, sur les applications de rencontre, c'est fou raide.
Ben, en fait, il faut plus faire un choix de poisson mort.
Puis c'est le paradoxe du choix souvent, là, de poisson mort.
Mais en plus, ils pêchent à la dynamite.
Mais oui.
Mais en plus, pour monsieur aujourd'hui, se fait rejecter par beaucoup plus de femmes qu'à l'époque. À l'époque, mettons, au bout d'une soirée, c'était peut-être deux filles qui lui ont dit non, mettons.
Ouais.
Alors que là, sur une application de rencontre, ça peut être 10 femmes dans une même journée. Là.
C'est ça.
C'est
un petit peu plus cruel où les standards,
oh,
la mécanique a changé. D'où l'importance de savoir où vous êtes compétent pour les rencontres.
Et voilà, d'avoir un profil attrayant.
Oui, oui.
Et votre description, c'est important d'avoir une description le fun. Là.
J'ai des clients moi, qui sont bien meilleurs en personne que sur les applications de rencontre.
Mais oui.
Il y en a d'autres qui excellent là-dessus.
Les gars, vous ne l'avez pas tant, là, en app de rencontre.
Non, mais c'est des compétences
en photo,
différentes.
Là...
Hein. Ouais. C'est vraiment des compétences différentes. C'est des aptitudes
ben,
qui
ouais. Mais quoi?
Diffèrent non. Complètement.
Vous vouliez un homme naturel. Je comprends pas. Il est naturel, le poisson?
Ouais, il est naturel, là, mais les selfies la tête par en bas, ça marche pas. Là. Ça vous fait trop double menton.
Ça veut dire que... selfies la tête par en bas?
Oui! Ah non, il y en a. Messieurs. Un selfie. Regardez l'emoji selfie. Là. Le bras, il est un petit peu au-dessus de ta face. Donc, l'angle est parfait là, t'sais, pour te mettre en valeur. C'est important. Non, mais c'est un détail qui ouais. Peut être vraiment... Ça change ton visage là, de prendre une photo tête par en bas. Là.
C'est vrai. Mais l'angle par au-dessus, d'ailleurs, il y a un nom hein, pour cet angle-là avec la photo de, en angle. On appelle ça l'angle menteur. Parce que, ouais, parce qu'il affine la taille
oui.
Et il surdimensionne les seins, les lèvres et le visage.
Oh, fait que
ça
mon
donne
Dieu.
Une impression de silhouette affinée.
C'est en plus des filtres et du maquillage,
et oui,
mesdames. Autant que messieurs, vous ne l'avez pas tant, que mesdames en font trop.
Ben, il y a des femmes qui se font dire, puis il y a une personne dans mon chat en direct qui vient de le mentionner également, que les gars pensent que les femmes ont des faux profils tellement que c'est des profils parfaits, make-upés.
Hey, mais ça, c'est vrai. Dans mon application, le GoSeeYou, il y a des gens... Hey, d'ailleurs, il y a une augmentation de membres l'automne dans l'application.
Oui.
Oui, là, ça vaut la peine de venir faire un tour. GoSeeYou.com.
Comment t'expliques ça, le fait qu'à l'automne, il y a plus d'inscriptions?
Ben, on peut effleurer le sujet, si tu veux.
OK, mais pas beaucoup.
Mais c'est un sujet dont on va parler demain dans le retour avec DH.
D'accord.
Puis, moi, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu constater, il y a deux choses... Il y a une augmentation de la testostérone et de l'estrogène chez les humains, donc dans la période, surtout en novembre et décembre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui procrastinent. Excusez-moi.
Je suis là pour toi, Emel.
À cette heure-là, je cherche mes mots, mon Dieu. Donc, beaucoup de gens créent des bébés, finalement, en novembre, décembre.
Ah.
Et... ce serait lié directement là, à l'augmentation de nos hormones. Donc, la saison des amours, ce serait pas au printemps comme tout le monde croit, mais bien l'automne. Mais il y a aussi le winter coding. C'est un comportement très, très toxique. Sur une étude que je disais, il y a plus de 50% des célibataires qui étaient approchés par leur ex en cette période automnale et à l'arrivée de l'hiver.
Oui, oui.
Comme si... Pour pas passer l'hiver seul, et c'est un moment où on a envie de faire du cocooning, puis les hormones étant dans le piton, on a envie de passer du bon temps, mais on manque un peu on n'a pas de temps de dépenses d'énergie à mettre dans une nouvelle relation et tout.
Fait que sollicite les ex.
Sollicite les ex, qui serait un peu plus facile peut-être, et on a parfois l'impression que notre ex est une nouvelle personne, que là, ça va bien durant quelques mois et tout, et le printemps arrive, pif, paf, pouf, la personne disparaît à nouveau.
Oui, ben moi, c'est quelque chose que j'observe aussi dans les propos qui sont tenus en consultation. Là. À l'automne, on pourrait dire que les gens sont affamés de rencontres. Puis oui, ils peuvent ressolliciter leur réseau de relations qui n'étaient pas tout à fait fermées, qui étaient un peu floues ou qui ont comme passé une période de « Ah, ben là, finalement, c'était peut-être pas si pire. » Puis là, ils se réessayent.
Ben honnêtement, là, depuis quelques jours, j'ai l'impression que c'est depuis la pleine lune, mais...
Ah non, pas la superstition.
Mais j'ai des gens qui avaient déjà tenté une chance, disons, mettons, il y a un an ou deux, que là, tout à coup, là, ça réécrit. Fait que probablement qu'ils ont vécu des expériences, quelque chose, puis là, ils retentent leur chance.
Mais pour toi, Paul, c'est tributaire de quoi exactement? C'est-tu le froid? C'est-tu le fait que les feuilles meurent dans les arbres et on a envie de renaître dans une relation? C'est quoi l'explication?
Je pense que il y a un besoin réel chez les gens. Donc, il ne faudrait pas tout pathologiser puis penser que c'est un problème. Il y a un besoin réel. Mais ensuite, il y a des gens qui ne savent pas bien s'occuper de leurs besoins puis là, qui peuvent répéter des patterns là-dedans. Qui peuvent aussi retourner dans des relations mortes pour pouvoir répéter le pattern qui est familier. Parce que la familiarité, là, c'est tout proche de la vraie sécurité.
OK.
Fait que ça peut être un des critères attirants. Mais c'est peut-être aussi pour régler la question de la famine. C'est quand les gens, tout d'un coup, ils voient leur énergie baisser avec l'automne. C'est comme les troubles affectifs là, saisonniers, c'est comme une mini-hibernation, là, ça, cette affaire-là. C'est dur. Fait que le fait d'avoir quelqu'un auprès de qui compter, se coller, ça redonne un peu d'énergie et de ressources.
Effectivement.
Tu peux avoir des gens qui misent sur une hibernation ensemble, un peu entre guillemets, de cette manière-là.
Puis la dépression saisonnière, on en a parlé souvent là, sur nos ondes et tout ça, mais on est en plein dedans. La luminothérapie, c'est vraiment quelque chose qui fait ses preuves.
Oui, mais ce n'est pas le seul ingrédient qu'il faudrait idéalement, mais oui, c'est un qui se caractérise beaucoup. Fait que si vous voulez un cocktail royal là, pour vous aider en situation de dépression saisonnière, ça va être vous exposer à beaucoup de lumière, donc les lampes de luminothérapie, puis il y en a différentes indications.
10 000 LUX.
Oui, luxe.
Ça prend, luxe.
Mais sous dépendant de la proximité, puis l'intensité, puis la durée, puis jusqu'à quel point vous focussez dessus ou champ périphérique, ça peut varier. Il y a des lampes qui sont faites très différentes, mais regardez, de manière générale, 10 000 lux, vous êtes en business. Une vingtaine de minutes dans le champ périphérique.
Vitamine D.
Il y a également la vitamine D, oui, c'est ça, parce que normalement, on la sécrète quand on est exposé à la lumière naturelle, au soleil. Fait qu'avoir un supplément de vitamine D dans ces moments-là, ça pourrait peut-être bien faire.
Magnésium.
Et en plus, faites de l'activité physique.
Oui!
Fait qu'au moins un, deux semaines réparties en petites bouchées à travers la semaine.
Absolument.
Parce que c'est l'activité physique modérée, régulière qui aide. C'est pas je me clenche deux heures après-midi puis je fais rien pour le reste de la semaine.
Venez écouter l'épisode avec notre chère Sonia, Miss Sonia Fit, qui est venue là, dans l'émission. Donc, on a parlé de ça, justement.
Oui.
Puis ça sécrète vraiment l'hormone du bonheur. Là. Tu sais, c'est le sérotonine, dopamine et toute la patente.
Mais l'hormone du sommeil, là, puis
la mélatonine.
La mélatonine, qui fait qu'on est un peu engourdi, là, est fabriquée, sais-tu avec quoi?
L'hypothalamus?
Dans la glande pinéale. Mais elle est fabriquée à partir de la sérotonine.
Ah!
Fait que c'est comme si l'hormone de sommeil, c'est de l'hormone qui est volée à la sérotonine.
Ah,
à l'hormone du plaisir, du bonheur, de la bonne régulation.
Mais la mélatonine est quand même une hormone qui endort énormément.
Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'elle est convertie.
Okay.
Comme si la glande pinéale, elle prend la sérotonine, puis là, elle la convertit pour produire une nouvelle molécule qui va être la mélatonine. Puis là, si on en a trop dans notre sang pendant la journée, on ne l'a pas bien métabolisé parce qu'on manque de lumière, on est comme un peu engourdi, bien là, pour fonctionner, il faut augmenter notre niveau de cortisol beaucoup plus haut que d'habitude pour se donner l'impression d'être réveillé. Mais là, ça fait que quand je suis rendu au soir à dormir, mon corps, il est brûlé, raide. Hein? Fait que là, j'entre pas aussi bien dans la phase de sommeil. Fait que là, il faut que j'augmente ma dose de mélatonine. Puis là, en augmentant ma dose de mélatonine, bien là, le lendemain, il faut que j'augmente ma dose de cortisol. Puis là, c'est comme un cercle vicieux.
Aïe.
La personne va être complètement épuisée. Puis là, gardez à l'esprit que ceci était un résumé général qui ne s'applique pas à tout le monde, parce que c'était un raccourci synthèse qui...
Oui, absolument. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux prendre en consultation, par exemple.
Exact, c'est ça.
Okay.
Parce que pour avoir un profil de recommandation personnalisé, il faut vraiment une évaluation personnalisée.
Puis la mélatonine, ça demeure un bon aphrodisiaque aussi, si vous avez envie d'essayer ça. Oui, absolument.
Ouais.
C'était la naturopathe du sexe qui nous l'avait appris dans les premières émissions. Elle nous avait parlé de ça. C'est un bon aphrodisiaque. Si vous avez envie d'essayer ça avec votre partenaire, ça marche tempête, ça a l'air.
L'as-tu essayé?
Je ne me rappelais pas de ça.
Je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat.
Mais la naturopathie, c'est parce que ça veut dire plusieurs choses, hein, ça. Il y a des gens qui vont avoir un doctorat en neurosciences qui vont s'afficher comme naturopathe. Puis il y a des gens qui vont avoir fait une auto-formation d'écouter une vidéo sur YouTube qui vont se dire naturopathe. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est uniforme, là, tu sais, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, le degré de compétence. Fait que soyez prudents.
Oui, il faut faire attention, effectivement.
Ça veut dire que n'importe qui peut prendre le titre.
Oui. Quelle serait le meilleur certificat ou la meilleure formation à ce moment-là, c'est...
Je pense que ça sera discuté avec un pharmacien. Parce que les pharmaciens...
Mais les pharmaciens n'aiment pas même les naturopathes.
Coïncidence. Mais c'est parce que quand vous allez voir un pharmacien, il peut vous sortir la fiche technique de toutes les études scientifiques reliées avec toutes les molécules, les médicaments, les produits naturels. Eux autres, ils ont une grosse bible de la pharmaceutique.
Oui.
Ils peuvent vous sortir la fiche technique. Donc, de toutes les indications, toutes les preuves de validité, toutes les contre-indications.
OK.
Fait que c'est le pharmacien qui est le meilleur pour ça.
Et puis ça m'amène à une autre question. Je suis un peu champ gauche, là, mais y a-tu des gens que tu rencontres dans ta pratique qui s'auto-médicamentent tout seul en pensant que c'est la bonne chose?
La réponse est oui.
Ouais.
Ben oui.
Ça occupe quel pourcentage des gens que tu rencontres à peu près?
C'est pas de tes affaires.
Le secret professionnel.
Non, mais j'aurais goût de dire ça.
Ah, me remets à ma place.
Il y a peut-être à peu près un 5%, je dirais, de ma clientèle qui me disent s'auto-médicamenter.
Moi, je m'auto-médicamente.
Ça fait partie du cocktail général, mais ça dépend. C'est pas toute la même portée. Là.
Y a des gens là, auto-médicamenter. Tu sais, comme là, mettons, là, je sais, comme là, je recommence mes oméga 3 parce que ça m'aide pour mon TDAH et ma bonne humeur. Ensuite, le magnésium, là, c'est la première fois que je vais essayer ça.
Le triphosphate de truc ou le.
Bah, magnésium.
OK, c'est parce qu'il y en a, il y en a une qui a une tri-truc, je ne me souviens plus quoi du nom, là, mais c'est lui qui est mieux absorbé par le...
Ah, OK, je ne sais pas. C'est Miss Sonia Fit là, qui, qui organise ça. Ensuite, je prends de la vitamine D. OK. Tu sais, je prends tout un cocktail de...
Curcuma?
Vitamine, non, mais j'y ai pensé. Des petits shots de curcuma. Puis après ça, non, mais c'est ça. Je vais avec des produits naturels, mais est-ce que c'est ça que tu voulais dire par s'automédicamenter? Non,
ou... Oui, entre autres, mais l'alcool, les dure, drogues aussi, ça, exactement.
Ça. Comme l'alcool, c'est le médicament auto-administré numéro un de la population générale.
Oui, mais là, ouais, OK, c'est un faux médicament.
Ben, c'est pas parce qu'il n'est pas prescrit sous ordonnance qu'il fait qu'il n'y a pas un effet.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça aide généralement les gens qui en consomment?
Un dépresseur.
Mais est-ce que, par exemple, ça pourrait aider quelqu'un à traverser une période difficile de consommer de l'alcool modérément, d'après ce que tu constates dans ta pratique?
J'aurais le goût de dire que c'est... Tu sais, comme n'importe quel outil, il y a des gens qui vont se crever un œil avec, puis il y a des gens qui vont construire un bateau. Là, fait que c'est un outil en soi. Ouais. Comme un peu... Je vais faire un pont avec le micro-dosage de champignons magiques.
Ouais.
Absolument.
Ça, il y a des études qui ont été démontrées que le micro-dosage administré... pendant avec un aide de plein de traitements et des choses, peut avoir un effet de neurogénèse, ça veut dire de formation de nouveaux liens dans les connexions cérébrales, qui permet de former de nouveaux circuits, de nouvelles habitudes, une nouvelle compréhension de la vie plus facile que si je ne l'avais pas eu, ce médicament-là.
Contrairement à l'alcool, qui, lui, va au contraire, il me semble qu'il détruit des petites barrières et c'est ce qui fait que l'alcool va aller altérer des neurones et des trucs comme ça.
Oui.
Donc, c'est pas... Même de façon modérée, je pense que l'alcool, c'est pas si bon là, pour la santé.
Ben non, c'est ça. Moi, je penserais que non, mais c'est un outil en soi. Parce que c'est utilisé de manière ponctuelle, il y a des gens que ça va leur permettre de passer à travers une crise.
Ouais, puis je
mais
sais
c'est un dépresseur, est-ce que ça va pas avoir un effet retard?
C'est pour ça que je dis que c'est de manière ponctuelle, puis dans certains cas, on peut pas le généraliser. Mais oui, ça peut aider des personnes à être moins anxieux. C'est juste que des gens qui vont avoir tendance, s'ils ne misent que là-dessus, ça va provoquer toutes sortes de dérégulations.
Oui, parce que sur le champ, sur le coup, en prenant de l'alcool, t'es moins anxieux.
Oui.
Mais les congénères, tout ce que ça produit, tout ça, ça va te rendre... Les jours suivants, ça va te rendre anxieux. Puis je lisais justement que, t'sais, surtout les alcools foncés contiennent des congénères. Plus c'est foncé, plus ça contient des congénères. Et ça crée comme un effet anxiogène et vraiment... Tu sais, des fois, tu prends une brosse, là. Puis comme le lendemain, là, tu te files anxieux puis tu te questionnes, genre, « Hey, j'ai-tu des niaiseries? Oh mon Dieu, j'ai-tu l'air fou? Hey, mon Dieu! Mm-hmm. » Mais ça, c'est un effet qui va s'estomper comme dans les jours suivants, mais qui est là parce que, justement, ça contenait beaucoup de congénères et c'est venu altérer des trucs dans le cerveau. C'est ce que j'avais lu. Fait que je me disais, « Tabarouette, c'est le après là, qui est plate à gérer. » Sur le coup, c'est bien le fun, mais...
Ben, un des symptômes qu'on connaît bien en clinique, là, c'est celui du syndrome de persévération. C'est les gens qui vont, mettons, avoir une consommation d'alcool avancée, chronique, sévère, peuvent avoir une atteinte frontale là, qui s'appelle le syndrome de persévération. Ça veut dire que la personne, elle répète les mêmes processus ou elle redit les mêmes affaires, puis là, elle se fâche là, parce que ça l'avance pas, là, tu sais, puis voyons, puis ils répètent les mêmes niaiseries, puis les mêmes patterns, puis... mais c'est pas parce qu'ils veulent mal faire, c'est que c'est une atteinte cérébrale au niveau de la capacité d'inhibition. C'est comme s'il n'y avait pas la capacité de tirer la leçon du comportement. Fait qu'il il l'enclenche. Fait qu'ils n'ont pas le frein. Ça l'attaque, le frein, on pourrait dire, l'alcool, sur la charge affective.
Wow!
Ouais, je sais que dans certaines régions du monde, la MDMA, par exemple, est utilisée pour traiter les chocs post-traumatiques. Il y a eu beaucoup de bienfaits qui ont été retirés de ces projets-là. Et il y a aussi des traitements avec la kétamine qui se font un peu partout dans le monde pour traiter certaines parties de l'esprit. Quand on parle d'antidépresseurs qui sont dans la famille des drogues, est-ce que c'est quelque chose qui aide les gens dans ta pratique accompagné d'une séance de psychologie?
Oui, bien c'est quand même assez fréquent. Hein. Mais les antidépresseurs, mais je te dirais la chose que les gens comprennent le moins bien avec les antidépresseurs, c'est qu'ils pensent que c'est juste pour la dépression. Mais en réalité, c'est une classe de médicaments qui a été validée avec des études sur des populations dépressives. C'est une sorte de molécule, dans le fond. Puis cette famille-là de médicaments, aujourd'hui, ça a été étudié sur la régulation de l'anxiété, la régulation des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a certains antidépresseurs qui sont prescrits pour modérer les excès de, tu sais, du dérive d'humeur. Donc, il y en a toutes sortes. Oui?
Oh, non,
à vous la parole en studio.
Mais ça, puis ça régule, mais ça ne règle pas tout. Je veux dire, la personne a quand même des trucs à changer dans son environnement. au quotidien.
C'est ça.
C'est pas parce que tu prends une pilule que tu vas être guéri du jour au lendemain.
Exact.
Là.
C'est pour ça, moi, que je dis que c'est des outils.
Oui.
Il faudrait pas les démoniser non plus, mais il faudrait pas les idéaliser. Quand une personne souffre beaucoup d'une dépression très dure, là, majeure, qui est effondrée, là, qui n'est plus capable de s'en remettre, ça peut être un outil. C'est le temps, quand tu as une cheville pétée, de prendre des béquilles.
Oui.
Là, j'entends des gens dire « Ah, mais là, moi, je veux pas être dépendant de ça. » Ouais, mais c'est comme si tu disais « Je veux pas être dépendant des béquilles toute ma vie. » Ouais, mais là, as-tu une cheville pétée présentement ou un genou blessé? Si la réponse est oui, probablement que votre médecin pourra vous accompagner pour évaluer si c'est pertinent ou pas. Là. C'est les médecins, les spécialistes de ça.
Exact. Puis il y a quelqu'un sur le live qui a tellement une bonne question parce que il y a une période où moi-même, je filais pas, OK, ça m'est arrivé, et on m'avait proposé, tu sais, les médecins sont rapides, sa pilule en tabarouette, hein?
Ouais, mais ils sont
pas non. Ils étaient prêts à en prescrire.
Ils sont rapides sur la pharmacothérapie. Ils veulent t'aider.
Mais ouais, en tout cas, finalement, je me suis guérie tout seul par les oméga 3 puis l'exercice physique puis tout là, moi okay. Parce que je lisais les effets secondaires possibles aux médicaments.
Ouais.
Puis là, je me disais
décès possible.
Là, j'étais comme je vais-tu vraiment chambouler mon quotidien avec des effets secondaires hyper.
C'est ça.
Pas
c'est
le fun.
C'est ça l'autre affaire.
Ouais. Vraiment pas le fun pour guérir mon mal intérieur.
C'est ça.
Là, je regardais ça, puis je suis comme, non, j'ai pas envie de ça. Puis il y a quelqu'un, justement, sur le live qui demande, en fait, elle écrit, j'ai peur des antidépresseurs, mais ça m'a été recommandé. Que dirais-tu aux gens comme moi qui ont des résistances?
C'est correct d'avoir peur. Donc, ça vous prendrait peut-être un contact avec la réalité, c'est-à-dire prenez de l'information, vérifiez des choses. Parce que le médecin, quelque part, il est là pour vous aider aussi quand il vous prescrit ça, là. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs responsabilités en étant un petit peu intimidés par le
médecin. Moi, je trouve qu'il y a
des
médecins qui sont rapides en tabarouette. Oui, vraiment.
Mais c'est comme dans n'importe quelle profession. Il ne faut pas vous abandonner aux professionnels de la santé.
Non.
C'est pas le boss de votre santé, le médecin.
Ouais.
Tout comme le psychologue, c'est pas le boss de votre esprit, si vous allez le voir.
C'est-tu bon d'avoir plusieurs avis?
Un travail de collaboration. Puis les multiples avis, ça pourrait peut-être
être. C'est tough d'avoir plusieurs avis. T'sais, c'est ça qui arrive, en fait, c'est que là, les gens n'ont plus de médecin de famille.
Ouais.
Ils veulent consulter en psycho. Ils ont de la misère à avoir un rendez-vous.
Oui.
Tu as besoin maintenant. Ton rendez-vous est pour dans 6 mois.
C'est ça.
Donc, quand tu rencontres un médecin qui te prescrit des médicaments, tu te dis, ben coudonc, ça va être ça. Mais est-ce que tu as tout essayé avant? Est-ce que tu as essayé de bien manger, de bien dormir, de faire de l'exercice physique, de boire de l'eau? On sous-estime.
C'est ça, mais les gens, souvent, ils vont vers les solutions médicales, en tout cas, moi, ce que j'entends, parce qu'ils ont une assurance qui vient avec. Fait que s'ils ne suivent pas la prescription du médecin, ils n'auront pas l'indemnisation de l'assurance. Fait que c'est que ça vient comme un peu fucker l'enjeu de la santé parce qu'il y a une condition salariale. Puis les gens, ils ont vraiment besoin de travailler. Là.
Oh my God, ouais.
Tout ça complexe le portrait. Puis là, ça devient un facteur d'adaptation sociale et non plus un facteur de santé mentale.
Donc, en conséquence, pour toi, là, qui es un psychologue émérite et un maître de l'esprit, comme il s'en fait peu...
Moi, je dirais
pas que,
ça.
Est-ce que les avenues chimiques, c'est quelque chose qui est à privilégier lorsqu'on a besoin de, par exemple, penser nos blessures ou entamer une psychothérapie?
Bien, si vous n'y arrivez pas, on pourrait dire, en faisant le travail sur vous, avec votre volonté, il est possible que la blessure qui est présentement en train de se faire, ça dépasse votre volonté. Donc, c'est dans ce temps-là que ça serait peut-être bien de songer à plier sa volonté et puis dire, oui, en toute humilité, j'ai peut-être besoin d'une béquille temporairement. Puis là, en allant chercher la bonne molécule avec la bonne évaluation professionnelle, probablement que ça va vous permettre de passer moins de temps dans la souffrance. Parce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur l'anxiété et la dépression qui démontrent que plus vous tolérez longtemps dans votre vie des symptômes dépressifs et de l'anxiété, plus que ça va être difficile à soigner pour vous.
Ouais, puis tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est une béquille. C'est un plâtre un peu. C'est un pansement
c'est là
qu'on
pour
met.
Vous protéger.
C'est temporaire pour nous amener à un stade où est-ce qu'on n'en aura pas de besoin.
Exact, c'est ça.
Oui.
Fait qu'il faut le voir comme ça. C'est normal de résister puis d'avoir peur. Là, on vérifie. Puis on peut peut-être ne pas s'abandonner soi-même en faisant des petits tests.
Docteur Simon, si on veut te consulter, comment ça fonctionne?
Il faudrait que les gens ils recherchent sur Internet. Docteur Paul Simard, psychologue. Puis là, ils vont trouver mes coordonnées partout.
Ces capsules sont toujours hyper intéressantes également.
Tellement.
J'ai fait 17 heures de contenu au mois d'octobre avec mon
ben
défi.
Ben oui, l'octobre. Très drôle. Merci beaucoup. C'était Dr Paul Simard qui était avec nous toute la soirée. Dr Paul Simard, psychologue. Merci Max à la console et à la co-animation. Merci chers spectateurs sur le live TikTok. Et merci beaucoup à tous les auditeurs ainsi que ceux qui ont participé là, sur le live. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci, merci, merci. On se dit à demain. Sur les ondes de choix, 98h Radio X.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.